Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Valence ce soir au terme de la 15e étape du Tour de France, une étape marquée par un sprint massif et remportée une nouvelle fois par le gorille de Rostock, André Greipel, dont c'est la 3e victoire sur les routes de ce Tour de France. Il ne lui restera plus qu'une seule occasion pour remporter à nouveau une étape, ce sera sur les Champs-Élysées dans une semaine, la dernière semaine de ce Tour de France. Les Français vont-ils se racheter en 3e semaine? Ce sera le thème de l'un de nos débats dans quelques minutes. Et puis le Tour à peur ce soir, ambiance délétère sur la route de la Grande Boucle. Alors, mythe ou réalité, on va tenter de vous en dire plus tout à l'heure avec Georges Quirino qui a rencontré les dirigeants de la formation Sky. Mais en attendant, il est 19h06 et à 19h06, il est grand temps de retrouver Guillaume Lagnel pour la 2e édition de RMC Sport. Bonsoir
à
Guillaume.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le volleyball et l'incroyable performance de l'équipe de France. Les joueurs de Laurent Tilly ont remporté la Ligue mondiale en écrasant ce dimanche à Rio au Brésil la Serbie. 3-7-0. L'entraîneur des Bleus, Laurent Tilly, ne cache pas son immense fierté.
Écoutez, c'est un grand moment de satisfaction et de bonheur. C'est inespéré. On est parti de tellement loin que c'est incroyable qu'on se retrouve sur la plus haute marche. C'est vraiment un sentiment de grosse satisfaction. Ouais, les renseignements, c'est qu'il faut travailler, il faut rester concentré sur les objectifs, il faut rester motivé et il faut savoir que l'adversité, on la passe avec persévérance. On veut toujours se qualifier pour ce Rio, c'est tellement compliqué, mais ça donne un avant-goût. Et donc, on a envie de continuer là-dessus.
Voilà, Laurent Tilly, joint il y a quelques minutes par Camille Gelpi. L'équipe de France décroche le premier titre international dans son histoire, mais devra passer par un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et puis sachez que le Français Erwin N'Gapet a été élu meilleur joueur de la compétition. Moins de réussite pour l'équipe de France de Coupe Davis, éliminée en quart de finale par la Grande-Bretagne. Défaite aujourd'hui de Gilles Simon en 4-7 face à Andy Murray. Le score 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Écoutez la réaction du président de la Fédération Française de tennis, Jean Gachassin, très déçu et qui pointe du doigt la gestion de l'équipe.
Je ne sais pas si ça pourrait être le calnoir, mais c'est sûr que peut-être il y a une réflexion à avoir avec Arnaud Clément, avec qui tu fais confiance, mais peut-être il y aura une discussion, il y aura un débriefing que nous devons faire avec lui, car peut-être il manque un petit peu quelque chose qui sera déterminant pour la suite. On peut pas comme cela prendre des décisions ou analyser, mais nous devons faire un débriefing et voir ce qui va, ce qui va pas, ou essayer d'améliorer pour que peut-être encore l'année prochaine, en plus c'est mon dernier mandat l'année prochaine, donc j'aimerais bien repartir avec la Coupe Davis. Mais
voilà la remise en cause claire de Jean Gachassin, président de la Fédération Française de Tennis, au micro d'Eric Salio. La Grande-Bretagne qui s'impose donc 3-1 et affrontera l'Australie en demi-finale. L'autre demi verra reprise la Belgique et l'Argentine, deux nations qui n'ont pas remporté le trophée. Et de 3 pour André Greipel, le coureur de la formation Lotto Soudal a remporté sa 3e victoire d'étape sur ce tour. L'Allemand a devancé au sprint Degen Kolb et Christophe. Premier Français, Christophe Laporte qui termine 7e au classement général. Chris Froome conserve son maillot jaune avec 3 minutes et 10 secondes d'avance sur Quintana. Premier Français, Tony Gallopin, 9e. Au championnat du monde d'escrime, l'équipe de France féminine de Fleuret a remporté la médaille de bronze, comme l'an dernier. Les hommes terminent 4e. Au total, l'équipe de France aura remporté 3 médailles, un bilan décevant et qui intervient 24 heures après l'annonce du départ après les Jeux Olympiques d'Hugo Bry, entraîneur national. Un mot au niveau des transferts en football. Christian Benteke et qui passe d'Aston Villa à Liverpool, montant du transfert 46,8 millions d'euros. Et puis en rugby, suite de la préparation du groupe France en haute altitude à Tignes après une journée de repos mérité, les Bleus ont renoué avec leurs activités habituelles, réveil musculaire, point presse et musculation. Un dernier mot du British Open, on joue le 3e tour et deux golfeurs sont en tête pour le moment, l'Irlandais Paul Dune et l'Australien Jason Day. Le Français Romain Langasque pointe à la 45e place. 19h09 sur RMC. Tout de suite, Christophe Cessieux pour la suite de l'intégral tour.
Tout à coup la prison bien close.
Et oui, le gorille a encore crié aujourd'hui, on dit pas rugi, il a encore crié, le gorille de Rostock, André Greipel, Garo Gorille, qui fait beaucoup de dégâts sur les routes de ce Tour de France, beaucoup de dégâts évidemment sur ses adversaires qui ne récoltent que des miettes. Il est plus fort, c'est le plus fort, il n'y a rien à dire. On va en parler avec toute la Dream Team, ils sont là. J'ai nommé Cyril Guimard, bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir, nous sommes toujours là.
Oui, c'est toi qui... Tu fais bien le gorille, toi, tu limites pas mal le gorille.
Le gorille?
Oui.
Regardez mes pectoraux.
Toi, t'étais le petit rat. Hein. Chacun a ses...
Chacun dans sa cour. Hein.
Mais il ratonnait tout le temps.
Est-ce que Luc Leblanc avait un surnom lorsqu'il était coureur cycliste?
Non, Lucho.
Lucho, ouais. C'est un animal, ça. Hein.
Non.
Non. Et Bourgui, c'était Bourgui. Ça n'a pas changé. Voilà.
Bonsoir, messieurs.
On adorait sa brité derrière Bourgui, d'ailleurs.
Vous avez pas fait dans l'originalité, quand même, les gars. Vous auriez pu trouver un truc un peu, je sais pas, le gorille de Rostock, ça.
C'est les autres qui trouvaient pour nous, c'est pas nous.
Hein?
On n'imposait pas ce que le gorille impose.
Ouais, c'est
parce
vrai.
Il est impressionnant quand même. Hein.
Impressionnant. Troisième victoire d'étape. Donc lui qui s'était déjà imposé lors de la deuxième étape du Tour, c'était aux Pays-Bas, à Zélande. La cinquième étape également à Amiens. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, il remporte cette étape. En fait, il n'a laissé qu'une petite miette à son adversaire numéro un, Mark Cavendish, vainqueur de la septième étape à Fougères. Cyril Greipel, impressionnant. Il s'est gagné dans toutes les conditions. Il faut évidemment pas qu'il y ait un col juste avant l'arrivée
d'étape. Il faut pas qu'il y ait une grosse topinière juste avant.
Mais là, en l'occurrence, il y avait quand même un col de deuxième catégorie à 50 km de l'arrivée. Il a réussi à le franchir avec le peloton. Et une fois qu'il a passé ça, il n'y a plus d'obstacle devant lui. Hein.
Et oui, mais cette étape a été bien gérée par les équipes de Sprinter. Une échappée s'était produite dès le départ, ou du moins dans la première demi-heure de course. Le tempo a été fait à l'arrière pour qu'elle ne prenne pas trop d'avance, du moins pas suffisamment pour être obligé de faire un tempo beaucoup plus élevé dans cette dernière difficulté, mais qui se situait quand même à 60 km de l'arrivée. Donc l'important, c'était de monter de telle façon que les sprinters ne sautent pas. Aucun a sauté, ou du moins aucun, si, il y en a un qui a sauté, enfin deux, mais eux, ils avaient sauté dès le matin sur les premières accélérations, c'était Arnaud Demare et le Cavendish qui est un petit peu court sur ce Tour de France. Les autres sont passés. Et dans la descente, eh bien, les équipes de sprinter sont allées chercher le groupe de tête, l'ont donc rejoint assez facilement, et puis ensuite ont préparé le sprint du gorille.
Pourquoi un garçon tel que Greipel parvient à franchir le col deuxième catégorie? Pourquoi Cavendish n'y arrive pas? C'est une différence de le rapport poids-puissance que tu évoques souvent.
Non, là on n'est plus dans ce cas-là. Non, on a Cavendish qui est sec. Qui est au bout du rouleau, c'est le cas aussi pour Arnaud Demare, mais Arnaud Demare, enfin, dans le groupe, là, ils étaient un peu plus d'une quinzaine, on avait les coureurs qui sont usés au bout du rouleau, et les coureurs qui, eux, sont non pas usés, mais amoindris par les chutes, et c'était le cas, entre autres, de Jean-Christophe Perrault, qui, aujourd'hui, a vécu une étape... très très difficile, un véritable enfer, on en connaît les causes, il a été courageux jusqu'au bout, je ne suis pas certain qu'il puisse rallier Paris, enfin déjà s'il rallie l'étape de repos, après on verra.
Demain soir, arrivé à Gap, ensuite il y aura une journée de repos mardi, bien méritée, avant d'attaquer le plat de résistance de ce Tour de France et les étapes des Alpes. D'habitude, Lucho, Thierry, je ne sais pas qui voudra répondre à cette question, on a des bons sprinteurs en début de tour, puis ensuite de temps en temps on laisse la place à la montagne, et en fin de tour c'est pas toujours les mêmes sprinteurs qui gagnent. Là il est quand même d'une remarquable régularité, André Greipel, hein, Lucho.
Oui, puis en plus il sait faire l'impasse sur les étapes intermédiaires, enfin pour lui les étapes intermédiaires c'est les étapes de montagne, donc il prend les groupes tôt et il essaye de faire le moindre effort possible pour se réserver pour les étapes plates et arriver au sprint. On l'a vu hier à Mende, il a décroché complètement. De toute façon, il savait très bien qu'il allait arriver dans les délais. Et il a monté tempo, tranquille, pour rejoindre l'arrivée et se réserver pour l'étape d'aujourd'hui, ce qu'il a très très bien géré aujourd'hui d'ailleurs. Quand j'ai vu la bosse à 60 km de l'arrivée, là je me suis dit, le père Greipel, il va passer la bosse sans difficulté.
Thierry, pour toi, Greipel aujourd'hui le meilleur sprinteur du monde, ou alors c'est uniquement l'homme le plus en forme pendant ce Tour de France? Parce qu'on se rappelle quand même du début de saison extraordinaire de Christophe, mais qui s'est gagné sur tous les terrains, pas seulement au sprint, hein, parce qu'on rappelle qu'il a gagné le Tour des Flandres. Aujourd'hui, Greipel supérieur à Cavendish, à Sagan et aux autres.
Ben Greipel, sur ce Tour de France et ces derniers temps, il a montré sa force, et sur une étape plate, du moins une arrivée plate comme l'a été à Valence, il est imbattable. Et en plus, il sait gérer son sprint, où il le lance quand il voit que ses adversaires sont un peu moins bien, mais ou alors là, comme là aujourd'hui, il s'est mis dans la bonne roue de Gunkolb, et puis là il a accéléré sur la fin et il lui a pas laissé, mais il lui a mis même un vélo, hein, je crois. Ouais. Hein, donc il y a Greipel et puis les autres.
Très bien, Greipel. Alors parmi les autres, justement, il y a les sprinteurs français dont on attendait quand même, il faut bien le dire, beaucoup sur ce Tour de France. Ça fait plusieurs années qu'on nous dit on a une génération en or qui arrive, ils vont tout rafler sur les routes du Tour. Oui, génération en or. Mais bon, le problème, c'est que c'est sur le Tour de France qu'il faut que la génération en or se montre plus que sur les autres épreuves, même si évidemment...
C'est là où le bas blesse.
Et oui, parce que là, sur ce Tour de France, bon, évidemment, Nasser Bouhanni est peut-être considéré comme le plus doué de tous les sprinteurs français. Il n'a pas été verni, une chute avant les championnats de France, deux chutes ensuite dès le début du Tour de France, out, retour à la maison. Arnaud Demar, c'est son deuxième Tour de France et c'est le deuxième Tour de France où il passe à côté.
Il faut bien
dire les choses.
Et il finit sec.
Il n'arrive pas à reproduire les efforts au quotidien. Et puis le seul qui s'en tire à peu près, c'est Brian Cocard. Aujourd'hui,
t'aurais pas été le podium sûr. Hein.
Il s'accroche,
s'accroche avec Sagan.
Alors le problème, c'est que Sagan est un véritable artiste, mais il y a un moment aussi, faut s'imposer parce qu'il vient fermer la porte à Sagan et Sagan la rouvre à coup d'épaule. Il faut savoir résister à ça.
Ils ont pas le même format quand même, hein, Cocard.
Non, c'est pas une question de poids, hein, je peux vous le dire.
J'étais pas le plus gros, effectivement.
J'étais pas le plus gros et on m'a jamais bougé. Hein. Sagan vient à l'épaule, vient au contact à l'épaule. Pour sortir de la boîte. Et là, Brian Cocard est un petit peu déséquilibré. Il manque un peu de puissance à ce moment-là pour contrer le coup d'épaule de Sagan. Et à ce moment-là, il aurait pu éventuellement faire une place sur le podium.
On va l'écouter, Brian Cocard, interrogé sitôt la ligne d'arrivée franchie par Pierre-Yves Leroux, déçu forcément le coureur de la formation Europcar.
Je fais bien l'effort, l'équipe a roulé, je me fais vraiment violence dans le grimpeur et puis voilà, je venais juste de regarder la ligne, il y avait 250 mètres. Donc voilà, j'étais en train de produire mon effort et puis voilà, je me fais, je sais pas, ouais, il m'a touché le coude et voilà, j'ai failli me... Je suis pas tombé, je déraille et tout, c'est déjà... Voilà, ouais, je suis déçu parce que j'avais fait le max du boulot. Au final, il n'y a pas de résultat, quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un top 10 pour l'équipe.
Voilà, même pas un top 10 pour l'équipe, pour Brian Cocard, qui effectivement a coupé dans son élan par Sagan, termine l'étape à laquelle, bon, je vous dirai ça tout à l'heure, je trouve.
Il a arrêté de pédaler, il est loin puisqu'il a eu un saut de chaîne derrière, donc il doit être au-delà de la 20e.
15e de l'étape. Déçu, Lucho, par les sprinteurs français dans ce Tour de France?
Ben, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les pauvres. Hein.
Oui, mais on attendait beaucoup, ils font ce qu'ils peuvent, évidemment.
Tout le monde fait ce qu'il peut, nous aussi, on essaie de faire ce qu'il peut.
Mais on peut peu.
Mais si tu veux, quand tu as en face des Greipel, Christophe et autre chose, c'est difficile de pouvoir rivaliser avec une telle puissance comme celle de Greipel aujourd'hui. On le voit, il a laissé passer rien du tout, quoi. C'est une puissance extraordinaire. Et quand tu le regardes, quand il lève les bras, t'as une tonne de muscles, quoi. Alors quand un mec comme ça appuie sur les pédales, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire.
Tu peux rien faire. Donc tu sprintes pas, quoi. Tu restes
à la
maison.
Tu sprintes, t'essayes de rivaliser. Mais le truc, c'est Cyril, si tu veux, c'est que Greipel, il a la chance d'avoir une équipe extraordinaire.
Ça, on l'a dit. Le problème de Cocard aujourd'hui, c'est pas Greipel, c'est qu'il peut pas rentrer dans la phase finale du sprint, puisqu'il se fait, on va dire, entre guillemets, désarçonner par Peter Sagan. S'il arrive à ne pas être impressionné par Peter Sagan, il est dans l'aspiration de Degen Kolb et dans l'aspiration de Christophe. Et comme c'est un pistard qui sait exactement utiliser l'aspiration, à mon avis, il est sûr sur le podium, mais en plus, il s'est allé très très vite. C'est vraiment un petit Cavendish sur les 50 derniers mètres. Oui.
Jean-Louis est avec nous au 32-16. Il voulait intervenir dans notre débat. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bon. Jean-Louis, déçu par les prestations des sprinteurs français depuis le début de cette grande boucle?
Eh bien, ce n'est pas la première année. Hein. Ça commence à faire 2 ou 3 ans qu'on attend que tous ces jeunes confirment. Hein. Demain, Cocard, Bouhanni. Bouhanni, il n'a pas fini un tour. Je pense qu'il y a deux éléments. Hein. Bon, d'abord, ces jeunes coureurs, il leur manque un palier à franchir et ils ne franchissent pas. Et ensuite, dans leurs équipes, il leur manque un train. Voilà, il leur manque un train pour les conduire à la victoire. Moi, il me semble que quelquefois, les équipes françaises, lorsque ils amènent leurs sprinteurs, ils sont souvent à contre-temps, ils interviennent trop tôt, ils n'interviennent pas au bon moment, alors que les autres équipes, tout est parfaitement réglé. Tout est parfaitement réglé. Quand on voit comment sont conduits Gretel, Cavendish ou autres, bon, c'est des papiers musique, quoi.
Ouais, c'est sûr. Beaucoup de tweetos également se posent la question. Anto 54 qui nous dit la question à se poser, n'est-ce pas plutôt la qualité des trains de sprint pour nos Français qui est à remettre en question. C'est pas dans la culture de la formation Europcar de faire un train pour Coquart. Ce n'est pas non plus dans la tradition de la FDJ pour faire
ça
un train
n'est
pour
pas
pour
dans la tradition française.
Même si Cofidis a tout misé en revanche sur Nasser Mouani en faisant un train. Mais bon, le problème c'est que le leader a chuté.
Le problème c'est que Nasser, il est parti avant même de pouvoir vérifier si le train fonctionnait bien. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de mettre en place, mais il faut le dire, mais vous mettez pas un train en place en 6 mois. Il faut 2 ans, 3 ans pour mettre en place un train, parce qu'il va falloir que, au niveau du recrutement, vous alliez chercher chaque coureur qui va être véritablement à la bonne place au bon moment pour emmener le sprint.
Et ce sont des garçons qui coûtent cher en plus, former un train.
Ah oui, c'est normal.
Pas le même prix qu'un. Non, mais je veux dire,
c'est pas des smicards.
C'est pas des équipiers comme les autres en quelque sorte pour faire.
Ce sont des spécialistes. Ouais. Vous avez un sprinter et vous mettez des coureurs qui sont déjà des coureurs très rapides, avec dedans quelques coureurs puissants qui sont capables de tenir relativement longtemps en tête de peloton. Et puis il vous faut que des coureurs qui, quand ça vient frotter, savent faire le ménage, qui que ce soit qui soit à côté, parce qu'il faut protéger le sprinter. En France, on n'a pas cette culture. Chez les amateurs, ça n'existe pas ce genre de choses. Alors d'abord parce que vous avez très peu de sprint, puisque on fait un maximum de courses où il y a des bosses, parce qu'une belle course en France, c'est quand on finit un par un. Donc des sprints, vous n'en avez pas énormément. Et quand vous avez des sprints, vous les faites tout seul. Donc j'ai presque envie de dire aujourd'hui pour les sprinteurs français, rentrez chez Lotto. Rentrer chez Giant ou rentrer chez Katusha, quoi. Mais regardez, même chez Tinkoff, Peter Sagan, il l'a pas le train. Mais il est marron.
Oui, c'est la même
chose. Mais il est marron.
C'est pas seulement
4 fois deuxième, 2 fois troisième, 2 fois quatrième.
Oui, mais enfin, Cavendish, est-ce qu'il a un train chez Dix Quickstep?
Oui, il l'a, sauf que lui, il marche pas.
Écoutez, non, mais il a remporté une étape, alors qu'il a.
Oui, mais bon, cette année, il est lâché.
Vous considérez qu'il a un train aujourd'hui dans le
temps? Oui, il a un train, oui.
C'est combien un train? C'est 3, 4 coureurs, c'est ça?
Ah non, c'est 6 ou 7.
C'est 6 ou 7?
Ben oui, ça part. Attendez, pour mettre à l'abri, c'est à 10 bornes de l'arrivée déjà. Il y a juste les Giants qui viennent, on va dire presque culturellement, qui viennent au panneau des 3 km.
Ouais.
Mais nous en France, on peut pas avoir de train, puisque on met 2 œufs de canard dans une poêle et 2 œufs de poule dans une autre.
On peut pas tout viser à la fois.
Donc vous pouvez pas faire une équipe avec un leader grimpeur où vous prenez des grimpeurs pour emmener, et de l'autre côté demander à ces coureurs équipiers de grimpeurs de venir jouer les poissons pilotes sur les deux derniers kilomètres.
Lucho, qu'est-ce que tu conseillerais à Arnaud Desmarres et à Brian Coquart s'ils veulent remporter une étape sur le Tour de France? Parce qu'on demande la recette du druide, on va demander la recette du Lucho, quoi.
Mais déjà d'avoir
qu'elle est aussi bonne.
Mais déjà d'avoir quelques équipiers assez côté et de le protéger jusqu'à 10 bornes de l'arrivée déjà, au moins qu'ils prennent pas de vent de la journée, et puis aux 10 bornes, bon, après 6-7 équipiers, s'il reste 6-7 équipiers, c'est un miracle pour Desmarres. Je pense que déjà s'il en a 3 voire 4, c'est déjà très bien, et de pouvoir le placer jusqu'aux 500 mètres pour qu'il puisse être dans la roue des Christophe, des...
Tu peux pas,
mais tu sais très bien qu'une équipe comme la FDJ ne peut pas emmener Desmarres comme la Lotto.
Mais
ce que je te dis là, Christophe me demande qu'est-ce que tu conseillerais à Desmarres et à la FDJ.
Mais attendez, c'est une question qu'on peut se poser.
Ça n'est pas faire polémique.
L'équipe leur soit entièrement consacrée pour emporter un tour. On sait que Marc n'a pas peut-être envie, sauf sur d'autres courses, mais pas sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il y a Thibaut Pinot, donc on peut pas couper une équipe en deux. C'est difficile.
Si vous la coupez en deux, vous n'avez que 3 ou 4 équipiers pour vous, ça le fait pas.
C'est ce qui se passe pour Sagan. Sagan, il a qu'un lanceur. Hein.
Benatti, et puis derrière, il n'y a que des grimpeurs et des gars qui sont autour de Contador. Donc, Cyril a raison. De toute façon, un bon sprinter français, faut qu'il s'exporte à l'étranger, dans une grande équipe belge ou hollandaise. Il faut aller chercher
des vrais équipiers pour emmener.
Ça va mettre du temps, tu l'as dit. C'est 2-3 ans pour construire quelque chose autour d'un vrai sprinter. Et forcément, les 2-3 ans, ça va leur manquer.
Ou alors, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir que quand on prend le départ du Tour de France, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un leader pour le classement général ou un leader plus un sprinter? À mon avis, le choix, il est vite fait. Soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre. Mais tu peux pas prendre les deux. Tu peux pas dédier une équipe pour faire un classement général avec Thibaut Pinot et, dans l'autre sens, emmener les sprints pour démarrer. Ils peuvent pas bosser non plus tous les jours durant tout le tour.
D'un autre côté, regarde ce qui s'est passé avec la formation Cofidis. Ils ont tout misé sur Boigny. Une fois que le leader est plus là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la figure.
Mais c'est un manque de chance.
La règle du jeu, on la connaît.
La Cofidis avait misé sur Boigny, sur l'équipe autour de Boigny. Il a chuté, il est plus là.
C'est pas dans un sprint, c'est au bout de 10 km.
Oui, donc voilà.
C'est un manque de chance, mais quand même, c'est deux tours, deux gamelles. Et il sort de deux fois du tour. Et moi, j'ai l'impression qu'il va toujours chercher la limite de tout. Alors, c'est vrai que pour un sprinter, c'est ce qu'il faut faire. Mais il est peut-être un peu trop juste. Et à force d'aller chercher le petit trou, il tombe souvent.
En tout cas, on espère que la dernière étape sourira un peu plus aux sprinteurs français. Parce que là, il n'y a plus de sprint. Hein, c'est terminé. Les sprinteurs vont se mettre tranquillement dans l'autobus, vont franchir les Alpes.
Ils vont être en chômage technique.
Dimanche prochain sur les Champs-Élysées, la victoire la plus prestigieuse, même si je suis pas d'accord vraiment avec ça, la plus prestigieuse parce que tu t'imposes sur les Champs-Élysées, mais enfin personne ne s'intéresse à toi, on s'intéresse surtout au vainqueur du Tour quand on arrive sur les Champs-Élysées. Enfin bref, c'est un autre débat, on aura le temps de le refaire d'ici l'arrivée. Merci à Jean-Louis d'être venu au 32-16 et puis nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos débats. On va s'intéresser à cette affaire qui enflamme le Tour de France. Le Tour a peur ce soir, la formation
protégée
par les gendarmes, par la police. On va essayer de savoir un peu ce qu'il en est avec Georges Quirino qui a enquêté. On écoutera également tous les patrons de la formation Sky ainsi que Chris Froome, le maillot jaune. A tout de suite, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Tour et on se retrouve dans une petite minute.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Oui, vous arrêtez de mettre le cri du gorille au moment où vous lancez mon nom quand même, parce que il va y avoir on peut se tromper, il peut y avoir polémique sur la route du Tour. Tout est matière à polémique. On va en parler dans un instant avec Georges Quirino qui va nous parler de cette affaire qui enflamme le Tour de France, puisque le Tour de France a peur ce soir. Auparavant, je vous rappelle donc la victoire d'André Greipel, le coureur allemand de la formation Lotto, qui s'impose devant son compatriote John Degenkolb. Alexander Christophe prend la troisième place et Peter Sagan n'est pas sur le podium ce soir puisqu'il termine quatrième. Le premier français, c'est Christophe Laporte et non pas Bernard, qui termine septième au classement général. Pas de changement. Chris Froome reste évidemment en jaune devant Nairo Quintana. L'écart entre les deux hommes est de 3 minutes 10. Le maillot vert sur les épaules de Peter Sagan. Georges Quirino nous a rejoint avec la mine des mauvais jours, inquiet ce soir évidemment, Georges, puisque le Tour a peur, il faut bien le dire. Non, mais je ne rigole pas du tout. Le Tour a peur, Georges, au lendemain de cette histoire et de cette petite tasse d'urine qu'aurait reçu Chris Froome, ce n'est pas la seule chose, parce qu'on parle de coups de poing, on parle de cris, d'insultes, de crachats, enfin bref, toute la panoplie. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement et comment réagit-on chez Sky? A priori, c'est vraiment l'inquiétude. Je ne sais pas là.
Effectivement, donc il y a donc ce jet d'urine contre Chris Froome, il y a les crachats dont auraient été victimes certains coureurs ces derniers jours, il y a les insultes. Le directeur sportif Nicolas Portal dit qu'il lui arrive parfois de recevoir des projectiles sur sa voiture. Ce matin, en tous les cas, au lendemain de ce désormais célèbre jet d'urine, il y avait une présence policière renforcée au bus Sky à Mende. 6 policiers. C'était un peu bizarre de voir ça lors de mon échauffement, disait Chris Froome tout à l'heure. On a rencontré Nicolas Portal ce matin, un peu encore choqué de ce qui s'était passé la veille. On va l'écouter, Nicolas Portal, qui se demande quand même si tout ceci est bien raisonnable. rescousse là. Bah, allez, Nicolas Portal.
Ça s'arrêtera où, quoi? Ça s'arrêtera où? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un un jour aussi qui va franchir le pas et puis de faire vraiment quelque chose de, qu'on a pu voir dans le passé, dans le football, hein? Les gens passent au-dessus des barrières ou sur le foot, avec des armes à la main, quelque chose comme ça. Donc là, c'est, là les gars, ils sont juste aussi près que moi, que des micros, que du public. Donc forcément, ils ont peur, quoi.
Voilà, ils ont peur. En tout cas, c'est pas ce qu'a dit Chris Froome ce soir, qui lui a dit, moi, ça va aller pour le moment. Christopher Froome qu'on va écouter après cette étape. Aujourd'hui, tout s'est bien passé, hein. Apparemment, il a même remercié le public qu'il a soutenu. C'est pas comme ça tous les jours, hein. On a vu des jours des pancartes avec des insultes contre Chris Froome. Aujourd'hui, c'était plutôt tranquille, il faut reconnaître. Faut pas non plus dire que c'est la guerre mondiale contre Chris Froome tous les jours. Aujourd'hui, ça allait. Chris Froome l'a dit. Il est pas non plus tombé dans la paranoïa. Voilà, exactement. On va l'écouter, le maillot jaune.
Écoutez, l'atmosphère sur la route était fantastique aujourd'hui. Et de ce que j'en sais, il n'y a pas eu d'incident. Je n'ai pas peur, je me concentre sur les courses de vélo. J'ai un boulot à faire ici. Maintenant, c'est évident que cela me préoccupe. Si on a des spectateurs qui interfèrent dans la course de cette manière, c'est évident que cela va préoccuper tous les coureurs.
Et puis le dernier qui s'est exprimé là-dessus, c'est Dave Brailsford, le manager de la formation Sky, qui nous a répondu alors qu'il se rendait sur le plateau du service public. J'ai trouvé un peu dégoûté, écœuré par la situation. Vous allez l'entendre, Dave Brailsford, le manager de Christopher Froome.
Vous savez, ça fait longtemps que j'habite en France, moi. J'ai mon père qui habite ici depuis 40 ans, il est guide haute montagne, j'ai un fiole. Je connais énormément des Français qui sont très très gentils, mais j'adore la France, alors ça fait un peu... Oui, c'est triste, quoi, de voir les réactions de quelques minorités, pour dire. Mais quand même, je pense qu'il y a une limite, je pense qu'il y a une ligne, il faut pas franchir cette ligne. Alors là, puis avec nos voitures, des personnels, tout ça, c'est agressif quand même, hein. Ça fait peur. Hein. Peut-être dans le foot et tout ça, on a l'habitude de ça, mais ça m'étonne qu'on trouve ça dans le vélo quand même.
Voilà, Dave Brailsford, le manager de la formation Sky. Oui, Georges, tu le disais, parce que toi, tu es notre taupe, hein, sur le terrain. Tu es dans la course avec les coureurs, avec les spectateurs sur le bord de la route. Est-ce que tu ressens cette ambiance délétère dont nous parle Dave Brailsford, Nicolas Portal ou encore à moindre degré Chris Froome, même s'il en parlait hier. Est-ce que tu ressens cette atmosphère? Après, est-ce que c'est la même atmosphère, par exemple, qu'il y a quelques années, lorsque Contador était sifflé sur les bords des routes du Tour?
Bon, après, c'est toujours difficile de savoir exactement, parce qu'on n'est pas non plus au contact tout le temps de Chris Froome et des voitures de l'équipe Sky, mais on a vu, oui, des panneaux dans les Pyrénées, Armstrong égale Froome, certains cris, certains... Après, on n'était pas...
Pendant des années, on voyait des panneaux...
Après, attention, on n'est pas à côté des coureurs de l'équipe Sky. Évidemment, je ne suis pas à côté de Geraint Thomas quand je suis sur la course, par exemple, pour recevoir des crachats. Je ne sais pas s'il a reçu des crachats, je n'ai pas été témoin. Ouais, oui. Je ne suis pas à côté de la voiture de Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe, pendant toute l'étape, pour savoir s'il reçoit effectivement des projectiles. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent. C'est difficile d'être témoin de tout, évidemment.
Lucho, tu étais coureur en 1998 après l'affaire Festina, évidemment, ce tour. Là, pour en l'occurrence, c'était vraiment un tour délétère. Moi, j'étais commentateur déjà sur ce tour-là. Comment ça se passait à l'époque? Est-ce que vous étiez insulté sur le bord des routes ou au contraire applaudi, encouragé?
Il est aussi encouragé, hein, Froome.
Ouais, ouais, bien sûr.
Quand même très encouragé. C'est ce qu'on entend le plus, hein. Mais très encouragé.
Est-ce que ça mine un coureur lorsqu'évidemment on entend des mots qui sont dopés ou des gens de ce genre de choses-là?
C'est une minorité, parce que par rapport par rapport à mes souvenirs, on était plus encouragés sur le terrain en 98 que hué.
Oui, c'était les journalistes qui étaient hués, je te le confirme.
Oui, d'ailleurs, il y a la protection, je pense qu'elle était...
Ah, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein.
Oui, oui. Non, mais la protection, c'est les journalistes qui devaient l'avoir à l'époque, mais c'est vrai que nous, on était quand même très soutenus.
On était obligés d'enlever, on le disait tout à l'heure dans le direct avec Cyril, hein, à l'époque, nous étions sur une autre radio, on destiquait les voitures, parce que on prenait des pierres sur les voitures pour avoir osé dire que...
C'était votre faute.
Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais pas si tu as entendu Christian Prudhomme. Maintenant, on va peut-être l'écouter tout à l'heure. Bon, en l'occurrence, voilà, est-ce que c'est des choses qui arrivent sur le Tour de France? C'est pas une nouveauté, là, on a l'impression de tomber du ciel.
Je crois qu'ils n'ont jamais connu le Tour de France.
Mais c'est la liberté d'expression de chacun.
Ça a toujours existé à l'époque. Bobet, Anquetil, ça existait.
Lorsqu'il était en concurrence avec Poulidor, Anquetil se faisait...
Rappelle-toi le Giro en Italie, quand le blaireau se faisait balancer des trucs devant sa roue, même autour d'Espagne.
Rappelez-vous, vous avez un des coureurs les plus populaires de France, des panneaux disant Virenque dopé, machin, les Festina. ça. Il y a toujours eu des pancartes sur le bord des routes où vous en avez qui disent bravo telle équipe, bravo tel coureur, et puis vous en avez toujours une de temps en temps qui fait que, alors de deux choses l'une, où on parle des quelques panneaux qui vont être antipathiques à certains coureurs ou certaines équipes. Attends, il faut parler des millions des autres. Des gens qui insultent sur le bord de la route. Oui, il y en a. Mais ça représente quoi ?
Le problème, c'est qu'on fait un pataquès pour une personne qui a fait le bazar.
Rien.
Voilà. Sur les centaines de milliers.
Il n'y a peut-être pas qu'une personne, voilà. C'est ça. Parce que là,
a priori, c'est Richie Porte qui dit qu'il a pris un coup de poing dans la montée de la Pierre Saint-Martin.
Ça,
dans la
montée de la Pierre Saint-Martin avant que les polémiques ne naissent.
Les coureurs qui disent qu'ils sont crachés dessus.
Enfin, il faut qu'ils fassent attention. Bon, les insultes, tu peux pas les éviter. Mais les coups de poing et tout ça, il faut qu'ils fassent gaffe. Parce que la police leur tombe dessus, c'est la tôle.
Évidemment.
Mais là, c'est grave, quoi. Alors, c'est grave.
Alors, mais évidemment, on ne va pas cautionner tout ça. Évidemment, c'est l'œuvre.
Ce que je trouve bizarre, Christophe, c'est le décalage entre le discours de Braiford et le discours du directeur sportif Fortal et celui du coureur lui-même.
Oui.
On n'est pas dans le même discours aujourd'hui.
Oui, mais Chris Froome a peut-être envie de calmer le jeu.
Le monde ferait bien de calmer le jeu par rapport à ça.
Oui, mais si Chris Froome commence à dire qu'il a peur...
Mais il l'a pas dit aujourd'hui.
Mais non, justement, c'est pour ça.
Il n'a pas dit qu'il avait peur aujourd'hui.
Il faut rappeler il faut rappeler quand même que le sport cycliste se déroule dans des conditions un peu différentes des autres sports. C'est-à-dire que on n'est pas dans un stade de foot où les spectateurs et les fous furieux sont parqués derrière des grilles.
On l'a vu dans l'ascension de la Pierre Saint-Martin l'autre jour. Chris Froome, il a dû faire son chemin avec
c'est pas le seul.
Bien sûr, mais c'est pour montrer aux gens qui comprennent pas la proximité qu'il peut y avoir avec le public, mais il est obligé de lui-même avec son bras de faire son chemin pour
ils étaient là pour l'applaudir.
Oui.
Il y a de grandes chances, bien sûr.
Il y a personne qui l'a frappé, pas plus que Quintana qui était derrière, pas plus que les Français qui étaient derrière.
Est-ce qu'on a peur lorsqu'on est coureur du Tour de France, quand on est justement dans ces circonstances-là, très près des spectateurs déchaînés?
Non,
la montée de l'Alpe d'Huez, messieurs, c'est quand même un truc, ça fout.
Mais on n'a pas peur, on est dans le mouvement.
Sur la moto, j'ai eu la couille dans la montée de l'Alpe
d'Huez. Sur le vélo.
Faut le dire. J'étais pas sur le vélo.
Mais sur le vélo, on n'a pas peur.
Non, mais on n'y pense pas à tout ça, on n'y pense pas, on est tellement pris sur le vélo par l'effort et tout, mais au contraire, ça nous rend enthousiaste de voir ce public qui s'écarte au dernier moment et ça découpe.
Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que derrière, ils sont bien contents de les avoir parce que ça pousse. Hein.
Sauf que Froome, il y a deux ans sur la montée de l'Alpe d'Huez, ce que nous rappelait Nicolas Portal ce matin, il a pris également quelques coups, il a reçu des liquides un peu bizarres, et c'était la même chose sur la montée du Sennose. Ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà eu l'expérience de ces trucs-là.
Attention, les gens sont
de l'appréhension derrière.
Dans l'Alpe d'Huez, t'en as qui sont à 4 grammes depuis le matin. Hein.
Que, juste de te pousser, tu prends des coups. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément des coups pour te faire mal. Les gens se rendent pas compte que en te mettant une tape dans le dos comme ça, alors que t'es en train de monter, ça te fait pas forcément du bien.
Le blaireau s'est plaint souvent d'ailleurs de cela.
Voilà, exactement. Faut pas. Bon, après.
Et lui, il disait pas qu'il prenait des coups de poing. Il disait des supporters qui sont trop brutales.
Il y a plein de choses.
Pierre-Yves Leroux est entré dans notre petit camion. Il a des informations à nous communiquer concernant justement la protection rapprochée autour de la formation Sky. Il paraît on aurait engagé des mercenaires venant d'Irak pour les protéger. Non, c'est pas ça, Pierre-Yves.
Non, c'est pas ça du tout. Non, je me suis entretenu avec les gendarmes et avec la police qui sont chargés justement de la sécurité. Il y a rien de plus d'engagé auprès de l'équipe Sky que ce qui se fait classiquement pour un maillot jaune. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que l'équipe, le bus était placé en début de parking et c'est une zone où il faut surveiller un petit peu plus pour organiser le passage des gens. Il n'y a pas d'interaction du tout entre ce qui s'est passé et la présence policière qui était un petit peu plus forte peut-être ce matin. Il n'y a aucun renforcement du dispositif de sécurité pour l'équipe.
Donc c'est
pour
encore un
Sky.
Coup des médias, hein. C'est les médias qui ont mal interprété la chose. C'est encore les médias, hein.
Non, c'est Froome qui tout à l'heure disait c'était impressionnant d'avoir
Froome
autant
lui-même
policiers.
C'était bizarre d'avoir réponse de l'heure.
Donc on l'a vu là dans la paranoïa.
Moi je l'ai vu la scène. Il y avait là où ils s'échauffent les coureurs de l'équipe Sky avec leur entraîneur, il y avait 5-6 policiers autour. Moi cette scène-là, je la vois jamais
ouais,
au départ.
Ouais, ouais,
voilà. Et je suis pas le seul à m'être posé la question. On était plusieurs.
Mais là, je viens d'avoir la réponse des policiers eux-mêmes et qui me disent on ne connaît pas encore l'organisation du parking demain. Ça sera peut-être complètement différent.
Je sais plus qui disait que le motorhome de Sky était venu ce matin au départ, mais sans les.
C'était ce soir, mais ça c'est.
C'est plus, ce soir. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Très bien. Merci Georges. Merci Pierre-Yves. On va accueillir Didier au 32-16 qui voulait intervenir dans notre débat. Bonsoir Didier.
Bonsoir Christophe, bonsoir Cyril, bonsoir Luc, bonsoir Thierry. Un court préambule, ne changez rien, hein, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à apporter votre expertise ô combien importante sur le Tour de France que nous vivons actuellement. Sur on va dire la paranoïa dont s'estime victime l'équipe Sky, je voudrais pas non plus qu'on arrive à considérer que le Tour de France est devenu le terrain de jeu d'un certain terrorisme sportif. Par parenthèse, lorsque Nibali a remporté le Tour de France l'année dernière, on n'a pas senti de la part du public des réactions, on va dire, hostiles entre guillemets. Bien entendu, il faut garder raison.
Didier, comme chaque vainqueur du Tour, des questions ont été posées aussi sur sa formation Astana. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'un leader du Tour de France suscite quelques questions. Je veux dire, depuis toujours, c'est le cas. Hein. C'est pas nouveau là non plus pour la formation Sky. Nibali aussi, on s'en souvient l'année dernière, Cyril.
J'entends bien, Christophe, j'entends bien ce que tu me dis, mais peut-être faut-il voir là aussi certaines. Ce sont des fourches caudines sous lesquelles il faut peut-être que l'équipe Sky passe parce que c'est la rançon à payer d'une domination forte qui s'exprime aujourd'hui sur le Tour de France. La traduction, c'est Froome premier et Geraint Thomas dans les, je passe à sa place exacte, mais dans le top 10. Donc voilà, est-ce que le fait d'avoir une posture de vainqueur et d'affirmer ses ambitions fait que on ne puisse plus rien dire, on ne puisse plus rien faire.
Je pense qu'il y a aussi du dépit de la part des spectateurs ou des
suiveurs
du Tour de France, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait au Tour le plus sexy de ces 30 dernières années, avec les quatre fantastiques qui étaient au départ, et le super fantastique les a tués dès la première montée. Donc il y a un peu de dépit sans doute de la part et dans des esprits un peu faibles. Évidemment, celui qui a tué le suspense, celui qui a tué le spectacle, on l'agresse.
C'est ce que nous a dit le directeur du Tour, Christian Prudhomme, ce matin. Hein. Il dit je comprends qu'il y a aussi un peu de frustration.
On s'accordera pour considérer Christophe. Que ça reste encore le fait d'une infime minorité.
Mais évidemment. Mais malheureusement, les minorités agissantes.
On parle que d'eux.
Oui,
parce que c'est
une minorité du Tour de France.
Je ne sais pas, je pose la question.
Ouais, mais, très bien. Merci en tous les cas, Didier, d'être venu au 32-16 pour donner votre analyse sur cette situation. S'il vous plaît, soyez sympa avec les coureurs sur le bord des routes. Ce sont des guerriers, ce sont des garçons qui font des efforts incroyables. Ça fait 2 semaines qu'ils sont dans des conditions terribles avec la chaleur, avec les fatigues, avec les chutes. Ils vont attaquer les Alpes dans quelques jours. Ce sont tous des champions qui méritent le respect. Donc, s'il vous plaît, respectez les coureurs, tous les coureurs du Tour de France.
Genre, s'il vous plaît, respectez les motards,
les caméramans.
Et les caméramans.
Oui, quelle histoire.
Il y a une ambiance ce Tour un peu folle, hein, j'ai l'impression.
Vous avez vu l'image tout à l'heure, oui. Vous l'avez commenté. Sean Yates, le directeur sportif de Tinkoff Saxo, qui au moment où Peter Sagan s'est arrêté pour changer de vélo, il y avait un caméraman qui était là pour filmer la scène. Sean Yates a pris un piton et l'a jeté sur l'objectif du caméraman.
J'espère que les commissaires.
Ils l'ont vu et il est mis hors course pour demain.
Pour demain seulement.
Bon, ils sont gentils. Hein. Attends, un geste comme ça, pour moi, c'est plus important que le spectateur par rapport à Froome. Attendez, vous êtes au cœur de la course, tout le monde se plaint qu'il y a de l'agressivité, et la plus grande agressivité, elle est au volant des voitures. Attendez, où va-t-on, quoi?
Mais en plus, il n'y avait pas lieu de
s'y arrêter.
Il était à 20 mètres de...
Mais oui, je suis désolé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ils sont bien contents quand la caméra vient les filmer parce que ils sont dans l'échappée ou parce qu'ils vont gagner. Et là, c'était un simple changement de vélo. Il y avait quoi pour qu'ils s'énervent? Il fallait pas qu'on voit le changement de vélo?
Peut-être que le caméra a un bidon.
Qu'il avait ça, le caméraman aussi. Hein.
Ah oui. Vrai, il l'a vu comment, le bidon? Non, mais attendez. Le motard, le caméraman et le motard, ils seraient en droit de porter plainte contre Sonniette pour agression.
Les suiveurs du Tour de France ont peur ce soir, messieurs, dames.
Oui, ils ont peur des directeurs sportifs.
Soyez sympa avec nous. Moi, j'ai Marco avec moi.
Oui, toi avec Marco, tu risques rien. Je peux te dire, une troupe de légionnaires ne lui fait pas peur. Hein, notre ami Marco.
On a la potion magique.
Ancien nageur de combat, ne vous approchez pas de la moto RMC. Il est capable de.
Hein, voilà, ça vous mettre un pain sur la figure.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer la nervosité du directeur sportif. Ce qui serait intéressant, c'est de lui poser la question pourquoi. Parce que le milliardaire, là, Oleg, était dans la voiture.
Je pense qu'il met la pression aussi, Oleg. Hein.
Mais attendez, péter les plombs comme
oui,
ça.
Oui, non, mais attends, c'est une pression particulière depuis que Tinkoff est arrivé dans cette équipe. Hein. Contador, quand même, reçoit une pression continuelle. Ça gagne aussi, mon Georges.
Bah, d'autant qu'il a un problème mécanique à quelques kilomètres de l'arrivée. Ils ont changé de vélo.
Ouais. Il a changé de vélo pour garder un vélo plus adapté au sprint sur le plat. Voilà ce qu'il a dit.
C'est n'importe quoi. Ouais. Allez, bon, allez, on va clore le débat. Faut pas nous prendre pour des pigeons non plus.
On va essayer de calmer tout ça et on va s'intéresser à l'étape de demain dans quelques instants en direction de Gap. On retrouve la montagne. C'est pas encore la haute montagne, mais c'est une étape très intéressante demain que vous suivrez avec Georges Chirino sur la moto. À tout de suite, l'intégral tour jusqu'à 21h. Les débats, c'est jusqu'à 20h. Les questions ensuite à Lucho et à Thierry jusqu'à 20h30 avec Marcel Fernandez. À tout de suite.
Intégral tour. Christophe Cessieux.
La 15e étape du Tour de France est donc achevée tout à l'heure à Valence, dans la chaleur de la Drôme. Et demain, nous allons donc nous diriger vers Gap. On s'approche des Alpes demain. Est-ce qu'on est déjà dans les Alpes? On va en parler avec Cyril, avec Thierry et avec Lucho. Messieurs, cette 16e étape du Tour de France, Cyril, qu'est-ce qu'on peut en dire? On revient dans la montagne, c'est une étape de baroudeur demain ou c'est une étape pour grimpeurs déjà.
C'est une étape de baroudeur. La difficulté majeure sera le col de Mans à 12 km de l'arrivée, avec une descente très technique, dangereuse. Enfin, où il s'est déjà passé. Il y a déjà eu des événements très importants dans cette descente et qui ont d'ailleurs influé sur le classement du Tour de France. Mais on s'est rendu compte à chaque fois qu'il y avait toujours un groupe d'échappés et que souvent l'homme qui l'emportait à Gap après la descente de La Rochelle était un rescapé de l'échappée matinale. Et la dernière fois, je crois que c'était Rui Costa, tout simplement.
Alors, messieurs, on va ouvrir les paris. On va accueillir Benji, puisque c'est l'heure des paris. Il nous reste quelques instants.
Les paris RMC, Tour de France.
Voilà, donc Cyril nous a fait un peu le descriptif, le topo sur cette 16e étape du Tour de France. Benji, quels sont les favoris là? On a abandonné les sprinteurs, hein, on les retrouvera dans une semaine. Est-ce que ce sont les grimpeurs ou les baroudeurs qui ont la cote ce soir?
Alors, ce sont plutôt les grimpeurs, mais alors, pour une fois que je gagne une étape, Christophe, toi tu...
Ah oui, excuse-moi! Ah,
merci.
Excuse-moi.
Merci. Tout ça parce que j'ai critiqué ton short en jean, c'est pas beau.
j'avais mis Grépé la 5 ce matin.
Ouais, oui. C'est ça.
Oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Ah ben oui, je l'ai fait avec
oui, je m'en rappelle
les
bien, grandes oui.
gueules. Ouais. T'en rappelles, Thierry?
Oui, ah, oui, bien tout. Sûr.
On va pas lui accorder un Benji, on lui accorde pas. Par contre, Benji va prendre des points.
Ouais, on va juste réécouter Bourgui, par contre, parce que je crois que Bourgui a donné Greipel.
Benji.
Vu que la cote est assez importante, moi je vais tenter Greipel avec une cote de 9.
Greipel, alors, ça m'étonnerait.
Est-ce que Greipel ça passe, ça, Thierry?
Moi, à mon avis, il passe pas là. Hein, surtout que il a montré un peu des signes de fatigue. Hein. Ouais, il est descendu de son arbre. Hein.
Voilà une analyse très fine de Thierry Bourguignon.
Ah, oui. Mais oui.
Un expert ou un pseudo-expert, comme dirait Christian Prudhomme.
Ah,
je vais t'étonner un petit peu. Hier, il paraissait très juste, c'est vrai, mais il a chuté.
C'est pour ça aussi que j'avais dit que
il a fait un dent hier.
Ouais. Non, mais avec la chute,
c'est pas ton tour, Thierry, c'est pas grave.
Non, il a chuté hier.
Oui, non, mais tu l'avais pas mis d'accord. Non plus. Hein,
j'ai mis ce matin, j'ai mis à 5 oui, ce matin, mais ça compte pas. Oui, ça compte pas. Mais j'ai gardé quand même Van Garderen.
Et tu sais que je l'ai mis à 1 km de la fin.
Ah oui, moi je l'ai mis dans. Une fois la ligne franchie, moi je l'ai dit. Ah, Brian Pelz,
c'est bien.
Benji, est-ce que au classement tu fais un rapproché là? Est-ce que le maillot jaune est en danger ce soir?
Non, le maillot jaune.
Est-ce que Luc Leblanc a peur ce soir?
Le maillot jaune n'est absolument pas en danger. Lucho est tranquille, mais je sors un petit peu la tête de l'eau. De quoi prendre un peu plus de risque pour la suite. Tu parlais des grimpeurs ou des baroudeurs. Christophe, les bookmakers sont tenus compte, il me semble, de la descente vers Gap, parce que c'est Nibali le favori.
Oui,
Il est à 12.
C'est celui que je voulais donner, moi. Hein, mais bon, voilà.
Mais elle est belle, Christophe, la cote, parce qu'il est favori, mais à 12. Donc derrière, tous les coureurs ont des cotes intéressantes. Moi, je reste sur ma tactique. J'ai dit que sur les étapes comme ça, je jouais Dan Martin. Il est à 15, je joue Martin.
Dan Martin pour Benji et Nibali pour moi. Voilà, j'ai parié en premier. D'ailleurs, Mathias sur le hashtag RMC Live est d'accord. Une étape taillée pour Nibali demain? Non, point d'interrogation. Il me pose une question, Mathias. Cyril, Nibali, ça lui irait bien,
oui,
ça, non?
Nibali, oui, mais bon, j'ai l'impression qu'il est plus dedans. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il est plus dans la course.
Bah oui, mais bon, on pensait ça aussi de Thibaut Pinot. Regarde, il est de retour dans la course, non ?
Oui, il est de retour dans la course, il fait les raids, oui.
Quand il est en position
de gagner, il se marche dessus.
Bon, d'accord.
Bah oui, mais dans les paris, il faut en tenir compte.
D'accord. Donc, Nibali... À la trappe.
Ah non,
j'enregistre ça, Benji, aussi pour demain.
Du coup, Bourgui, il n'ose plus rien dire.
Benji, Thierry,
pardon. Ça va être l'analyse pourrie. L'analyse pourrie du jour.
Après la question pourrie, l'analyse pourrie de Thierry Bourguignon.
C'est la saucisse de Bourgui. C'est Rapin Machka. Parce que
Machka.
Il nous en fait une dans les Pyrénées, une dans les Alpes. Alors pourquoi pas demain?
C'est vrai, l'année dernière, c'est ce qu'il avait fait. Il a déjà gagné une étape dans les Pyrénées. Pourquoi pas dans les Alpes? Donc Machka.
Non, puis lui au téléphone, il va vachement bien.
Il est à 60.
Oh, et là.
Maillot jaune si tu gagnes avec Machka, évidemment.
Ouais, et je fais pas 5-5. Hein. Moi, c'est le gros paquet.
Et Thierry, je peux te dire que je viens de lire. La peur, la panique dans le regard de Lucho.
Pas du tout, parce que
je te sens moins serein.
Non, parce que je suis fin tacticien, je dois jouer qui je veux.
Oh, l'autre, il va me mettre dans la roue.
Il va se mettre dans la roue.
Oh, mais allez, Cyril. C'est ma tactique, je t'emmène dans le fossé, mec.
Il nous reste 50 secondes, Cyril.
Alors, en deux mots, Tony Galopin.
Yes. Ah ben, moi, je suis d'accord avec toi.
Vous
pouvez mettre 15 euros, je peux mettre 10 euros sur Nibali.
Mais vous êtes fous, les mecs.
Non, pas du tout, on n'est pas fous du tout. Très bien, Galopin, voilà un bon pari, celui de Cyril Guimard. Et j'espère que tu vas gagner, tiens, voilà. Lucho, il regarde le classement, il cherche un nom qu'il ne trouve pas.
Il est à combien, Cyril Gauthier ?
Ce serait la quatrième ou troisième journée d'affilée en échappée, hein, Gauthier.
Il est à 50, Lucho.
Il est à 50.
Ouais, bah, je vais jouer Machka.
Suceur de roue que tu es. Très bien.
Et t'es vraiment un petit coureur. Là, tu me déçois.
Quand je pense que ce mec est le champion du monde,
quand Cyril, que c'était en rat. Ah ben non.
Allez, c'est terminé.
Bon, alors d'accord, laisse tomber. Non, je joue pas Machka. Non, si. Je joue Rodriguez. Je joue Purito.
Purito.
Je préfère. On a plus de chances de te rejoindre.
Très bien, c'est terminé pour les paris.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Martial, je te laisse deux garçons qui viennent de s'insulter quand même. Le tour à peur. On s'inquiète tour des de relations France, hein, entre Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Bidon.
Je les prends quand même dans mon équipe. Merci.
C'est parlé quand même, hein, c'est parlé. Hein.
Merci Cyril, merci Christophe. L'intégral tour jusqu'à 21h, dont Thierry Bourguignon, Luc Leblanc, pour répondre à vos questions au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. On parlera aussi volleyball avec un exploit historique de l'équipe de France qui a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue mondiale. Et puis le foot, bien sûr, d'ailleurs un thème dans l'after. Hein. Si vous voulez nous poser des questions, ce soir à partir de 21h, les joueurs sud-américains sont-ils sous-cotés en France ? C'est au programme de l'after. L'after, c'est 21h-23h.
RMC, Intégral Tour.